VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Avec vous, Henri Francisque plutôt. Midi à Conakry, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Guinée, le président Alpha Condé a convoqué pour le 4 février 2018 des élections locales très attendues, alors que le pays est confronté à une grève dans l'éducation qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Le chef de l'État a signé un décret rendu public lundi soir portant convocation du corps électoral et avalisant le calendrier proposé fin septembre par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y a pas eu d'élection locale en Guinée depuis 2005 et la date du prochain scrutin, annoncée par la CENI après plusieurs reports des élections locales depuis 12 ans, avait été bien accueillie par l'opposition. Guinée toujours, des milliers de collégiens et lycéens sont descendus lundi dans les rues de Conakry pour réclamer le retour en classe des enseignants en grève depuis plusieurs semaines, alors que les syndicats menacent de déclencher une grève générale sur l'ensemble du territoire. Morgane Guiriec.
Nous voulons nos profs ou sans nos profs, pas de cours, scandaient les élèves. Dans les quartiers de Hamdalaï et Bambeto, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Lors de la manifestation, des élèves du secondaire ont tenté d'approcher le palais présidentiel et les bureaux du Premier ministre, où ils ont été refoulés par les forces de l'ordre. Lancée le 13 novembre, la grève des enseignants a déjà fait deux victimes, des adolescents de 15 et 17 ans tués par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. De son côté, le leader syndicaliste Aboubakar Souma, qui vit caché depuis le début de la grève, a démenti avoir appelé à une quelconque reprise du travail. Le président Alpha Condé a interdit aux médias de relayer ses messages sous peine de fermeture.
Violence en RCA, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'attaque qui a coûté la vie à un casque bleu mauritanien de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. L'attaque, qui a également fait 3 blessés, a été perpétrée par des anti-balaka lundi à Bria, dans l'est du pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le chef de l'ONU a exhorté les autorités centrafricaines à enquêter rapidement sur cet incident et traduit les auteurs en justice, rappelant que les attaques contre les casques bleus de l'ONU peuvent constituer un crime de guerre. L'attaque a eu lieu à un poste de contrôle des casques bleus de la MINUSCA près d'un site pour personnes déplacées dans la ville de Bria. Cela porte à 14 le nombre de casques bleus tués dans des attaques ciblées en République centrafricaine depuis janvier 2017. Antonio Guterres a réaffirmé la détermination de la MINUSCA à protéger les civils et à stabiliser la République centrafricaine. Il exhorte toutes les parties à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour amener la paix et la stabilité dans le pays.
Burundi, au moins 5 personnes ont été blessées par l'explosion d'une grenade lancée dans la foule à un arrêt de bus du centre de Bujumbura, la capitale, selon la police. Un inconnu a lancé cette grenade à l'arrêt de bus appelé la permanence dans la zone de Bouiza. Un suspect a été arrêté alors qu'il prenait des photos de la scène et est en train d'être interrogé, a annoncé la police. Au Zimbabwe, le gouvernement du nouveau président Emmerson Mnangagwa a prêté serment lundi. Son principal défi sera la relance de l'économie nationale en ruine. Mais la nomination de militaires et de membres de la vieille garde de l'ex-président Robert Mugabe refroidit les ardeurs de l'opinion publique et des investisseurs. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Harare John Stewart, directeur d'action et stratégie non-violente pour le changement social, Novasque.
On a été très déçus du fait que le président Mnangagwa n'est pas allé plus loin que son parti, le ZANU, pour inviter les gens à participer dans un gouvernement pour cette période de 8 ou 9 mois avant les élections éventuelles de 2018. Parce que dans sa déclaration, lors de son installation comme président, le 24 novembre, il a parlé d'une volonté d'inclure la majorité dans la restructuration nécessaire du pays. Il disait que le ZANU seul ne peut pas faire face aux défis nationaux. Mais il semble qu'en fait, ce gouvernement vient seulement d'un règlement des comptes au sein de la ZANU.
Est-ce que cette arrivée des militaires dans le gouvernement pose problème?
Il a inclus dans le gouvernement 2 militaires qui sont très impliqués dans des problèmes ultérieurs du pays. Par exemple, le ministre ministre qui est chargé des terres et de l'agriculture, Terence Shiri, était le commandant des militaires lors des opérations de l'armée zimbabwéenne dans la région de Matabeleland dans les années 80. Il était commandant de cette opération. Il a une histoire assez néfaste dans ce sens-là. Et l'autre ministre des Affaires étrangères, le général Sibusiso Moyo, était dans les années 80 le secrétaire d'une compagnie militaire zimbabwéenne qui était impliquée dans les opérations diamantifères au Congo, soutien de Mobutu dans les années 97-18. Et un rapport des Nations Unies qui est sorti en 2002 avait nommé non seulement le général Moyo, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, mais aussi en fait M. Mnangagwa lui-même comme responsable en fait des commerces illégaux et corrompus au Congo pendant cette époque-là. Et donc la confiance qui est clé pour le rétablissement de l'économie nationale avec des relations internationales ne semble pas être très évident. La population qui a eu la possibilité de manifester dans la rue le 18 novembre a, dans un certain sens, perdu la peur qui était généralisée avant cela. Et donc, il y a peut-être la possibilité qu'on aura des relations différentes entre le pouvoir et le peuple.
John Stewart, directeur d'Action et stratégie non violente pour le changement social, Novasque.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Le président américain Donald Trump doit sous peu se prononcer sur l'épineux statut de Jérusalem. Le monde musulman l'a mis en garde contre tout choix susceptible de ruiner les espoirs de relance du processus de paix. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Catastrophe, escalade, violence. Les alliés des Palestiniens ont multiplié hier les avertissements. Mahmoud Abbas s'est entretenu avec ses homologues français Emmanuel Macron et turc Recep Tayyip Erdogan. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, appelle ses 57 membres à tenir un sommet si Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Les islamistes du Hamas menacent d'une nouvelle intifada. Une loi adoptée en 1995 par le Congrès permet de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Depuis, les présidents successifs ont choisi tous les 6 mois de repousser son application. Donald Trump, malgré sa promesse de campagne, a fini par se résoudre à attendre pour, selon ses termes, donner une chance à la paix. Même si rien de définitif n'est calé, le milliardaire républicain doit annoncer son choix ce mardi ou demain mercredi. Pour Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense, c'est une occasion historique de réparer une injustice. Il a assuré qu'Israël saurait faire face à toute violence qu'un tel transfert pourrait provoquer.
Nous restons aux États-Unis. Les leaders démocrates du Congrès américain ont accepté de rencontrer le président Trump jeudi pour négocier un accord budgétaire et politique. Ils avaient déjà boycotté un précédent rendez-vous. Yacoub Arudraogo.
Chuck Schumer, chef de l'opposition démocrate du Sénat, et Nancy Pelosi, son homologue à la Chambre des représentants, disent espérer que Donald Trump les rencontrera dans un esprit ouvert. Les deux leaders démocrates devaient se rendre à la Maison-Blanche mardi dernier, mais ils avaient annulé leur venue après que le président eut déclaré qu'il ne croyait pas qu'un compromis puisse être trouvé avec eux. Cette rencontre jeudi prochain va inclure les chefs républicains de la Chambre et du Sénat, Paul Ryan et Mitch McConnell. Elle vise à sceller un accord sur les grands sujets comme le budget, l'immigration, l'aide financière pour les récentes catastrophes naturelles et le financement d'un programme d'assurance maladie pour les enfants. Ce rendez-vous aura lieu à la veille de l'expiration du financement de l'État fédéral le 8 décembre. Le Congrès doit adopter une extension des crédits fédéraux pour 2 semaines afin d'éviter un shutdown, une fermeture des administrations fédérales. L'opposition démocrate menace d'utiliser son pouvoir de blocage au Sénat pour empêcher l'adoption de cette extension du budget de l'État fédéral.
Dossier nord-coréen pour terminer. Un haut responsable des Nations Unies a quitté Pékin ce mardi pour la Corée du Nord, où il doit effectuer une rare visite officielle de 4 jours dans un contexte de tensions croissantes après le tir par Pyongyang d'un puissant missile. Le voyage du secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques, l'Américain Jeffrey Feltman, intervient dans ce contexte de fortes tensions 6 jours après le tir par le régime de Kim Jong-un d'un missile balistique international capable de frapper, selon Pyongyang, n'importe quel site du territoire continental des États-Unis. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.